Je veux que tout change.
Les ateliers de la nuit. Ce soir, dans l'atelier du son, une langue agglutinante. Un homme qui commence une lecture par « Comment j'ai appris à ne pas, à écrire » et les mots se chevauchent. On l'imagine avec un masque et un tuba pour pouvoir quand même respirer à même l'air tellement la langue sort vite et parfois pas dans l'ordre et c'est collant. Et la langue pend. C'est une recherche littéraire qui passe par la voix, la salive et jusqu'où elle pourra mener. Jérôme Gamme est poète et performeur. Son écriture passe par les mots qui se heurtent dans la bouche pour ensuite se heurter sur le papier. Il a vécu en Angleterre, aux États-Unis pour se frotter avec la langue étrangère et sentir la sienne moins familière. Ce soir, il est de retour de New York, où il habite en ce moment. Thomas Baumgartner lui propose une escale dans l'atelier du son, et c'est maintenant.
Bonsoir à vous, bienvenue dans l'atelier du son. Dans la deuxième partie, nous serons tout à l'heure avec Dominique Balay, qui s'occupe du projet Webcine Radio, un projet artistique et sonore auquel ont déjà participé plus d'une centaine d'artistes. En 2 ans, Dominique Balay prépare pour Webcine Radio un événement radiophonique et sonore autour de Fukushima d'une belle ampleur. Il nous en parlera tout à l'heure. Mais la parole en premier à Jérôme Gamme, un écrivain, un poète et une voix, plus précisément un débit, une élocution qui deviennent, qui sont... écriture. Bonsoir Jérôme Gamme.
Bonsoir.
Quand je dis ça, élocution, voix, écriture, tout ça est mélangé chez vous?
Oui. Le mot que je retiens, c'est que j'ai aimé, beaucoup aimé, c'est débit. Mm-hmm. Ça fait penser à, comment est-ce qu'on dit, un robinet qu'on ouvre, alors ouais. Un fleuve qui peut être de différentes natures, qui peut s'intensifier, qui peut se calmer, on peut refermer le robinet, le rouvrir. Ou alors au contraire, on peut s'imaginer que ça peut devenir un fleuve qui coule de manière beaucoup plus continue comme ça. Ça me plaît bien parce qu'il y a tout à la fois la saccade, le calme et le montage, j'allais dire.
Je vous propose, Jérôme Gamme, pour entrer dans le vif du sujet, qu'on se plonge une première fois dans ce fleuve.
L'activité imaginaire impliquée dans la fuite peut nous aveugler quant à la connaissance de ce à quoi nous échappons. C'est sa fonction. Petit à petit, on devine des relations de fuite avec le désir, le symptôme, l'identité. Le sentiment des choses que nous évitons est fondamental pour notre sentiment de nous-mêmes. Comme si notre vie dépendait par-dessus tout de la connaissance fine de ce qui nous met en danger, de tous les sentiments que nous ne devons pas avoir. L'art de s'échapper. Peut-être peut-on définir les individus par leur issue, par ce à quoi ils échappent, afin de mener la vie qu'ils veulent. Les mal assurés fuient le fait d'agir par... Préparation physique, elle est plus adaptée surtout au tremplin, qui requiert des qualités gymniques combinées au poids pour faire lier la planche à la force ou monter le plus haut possible, afin d'exécuter plus de rotation. La perfection tient surtout à l'entrée dans l'eau, entrée propre pour qu'il n'y ait ni jaillissement ni remous au-dessus de... créer une dépression sous l'eau qui va tout aspirer. L'entrée se fait bras tendus, avec les mains croisées, retournées à plat, à peine entrées dans l'eau, jusqu'au coude on ouvre les bras comme si on faisait un mouvement de brasse. On se retourne très vite pour augmenter encore cette dépression. On étudie aussi l'hydrodynamique des poissons, les jets d'eau, les jets placés au ras de la surface. On a pour... que le plongeur visualise le moment de l'impact. L'assistance d'un physiothérapeute est recommandée pour éviter les traumas.
Jérôme Gamme, on vous a écouté là dans cette pièce qui, initialement, qui accompagne une vidéo en fait. C'est une pièce vidéo.
Absolument, ouais. C'est un vidéopoème, c'est la partition d'un vidéopoème.
La partition d'un vidéopoème. Alors, on disait en ouvrant l'émission que ce qui demeure avant tout pour vous comme terme central, c'est l'écriture. Tout ça, c'est de l'écriture, ça vous aide dans l'écriture. Et à cette élocution, ce débit, comment l'avez-vous trouvé, ce débit ? Cette saccade, ce qu'on appelle parfois bégaiement, mais ce n'est pas vraiment du bégaiement, en fait.
Non, c'est vrai. Quand je fais ce travail rétrospectif, votre question m'y invite, je pense pas l'avoir cherché. Je crois que il s'est présenté à moi parce que j'avais besoin de sortir d'une situation qui était problématique. Et c'est ça que j'ai trouvé pour en sortir. Cette situation, c'était que j'avais envie de dire plusieurs trucs à la fois. Il y a deux aspects. Dire plusieurs trucs à la fois et dire que je n'en peux, mais que je ne sais pas quoi dire. Et je voulais pouvoir exprimer ça positivement. Plutôt que de le compter au titre du silence ou d'une incapacité, j'avais envie de potentialiser cette difficulté à dire.
Cette chose-là, pardon, on la trouve au moment d'une performance, par hasard, ou au moment de l'écriture, parce que ça, ces hésitations, ces moments où les mots se bousculent, ça se retrouve aussi dans votre écriture, Jérôme Gam, c'est-à-dire dans les livres.
C'est vrai, mais c'est une vraie question ce que vous voulez dire. C'est est-ce que ça se trouve quand on écrit, ou est-ce que ça se trouve dans une performance? Et je crois que pour moi, dans mon cas, ça a été les deux. Au début, je m'apercevais qu'il y avait une difficulté quand j'écrivais, et puis cette difficulté, j'ai trouvé entre guillemets un moyen de la résoudre quand je lisais. Et ensuite, quand je suis revenu à l'écriture, je me suis dit, tiens, ben oui, voilà, quoi, il faut travailler cette façon de faire. Et donc, cette écriture-là, elle s'est potentialisée sur la page grâce au fait d'être passé par la parole.
Et alors, vous dites donc, encore une fois, que ça reste tout ça de l'écriture.
Oui.
Donc, cette expérience-là vous aide ou vous accompagne ou modifie votre écriture. Vous êtes un écrivain.
Absolument. C'est vrai que c'est de la poésie qu'on peut appeler de la poésie sonore. Ce terme a une histoire, une catégorie, une sociologie, tout ce qu'on voudra. C'est vrai que j'ai mis des CD dans mes livres. Mais pour moi, c'est avant tout de l'écriture, dans le sens où, d'abord, c'est mobile. Je ne sais pas comment j'écrirai dans le futur, mais je sais que j'écrirai, que je tenterai d'écrire. Et c'est une écriture dans le sens où c'est un problème, à mon avis, avant tout, enfin, c'est comme ça que je le vois, syntaxique, et non pas une histoire de rendre oralement. Il ne s'agit pas d'oraliser, ce n'est pas de l'oralisation, il s'agit d'écrire. Et le problème, c'est donc de trouver un système syntaxique qui puisse exprimer quelque chose. Ça, c'est un problème d'écriture. Ensuite, si ça en passe par le son, alors le son, c'est aussi quelque chose qui fait retour dans l'écriture.
Est-ce que ça veut dire aussi que ce que vous écrivez existe enfin quand il y a la diction, quand il y a la performance, quand on est face aux gens?
C'est une question problématique, ça, parce que d'un certain point de vue, oui. Et en même temps, ça veut dire, par rapport au livre que je veux écrire dans le futur, que j'y suis pas encore complètement. Parce que si c'était le cas, il pourrait exister sans l'oralisation, sans la mise en parole ou sans un CD. Donc oui et non. Je crois que je suis en plein travail, en fait. Et ce moment de la poésie sonore ou d'un CD, etc., de performance, c'est un moment où je suis en train d'essayer de mettre en place une écriture. J'ai pas fini du tout, quoi. Et ce n'est pas une arrivée, cette histoire de poésie sonore. C'est un plateau, c'est un... Parmi les mille qu'il pourrait y avoir, c'est un milieu. C'est une espèce de moment où j'essaie de me frayer un passage. Mais l'objectif, oui, c'est de trouver une espèce d'homéostase dans l'écriture.
Est-ce que vous êtes en train en ce moment d'écrire un roman?
Oui.
En prose?
Oui.
Est-ce que vous envisagez de mettre un CD dans le livre?
Au contraire, j'envisage de ne pas en mettre.
Ouais.
Si ce que je fais se passe bien selon ce que j'essaie de faire, je ressentirai pas le besoin d'en mettre un. Et je crois que ce besoin, c'est qu'on puisse entendre l'écriture sans avoir à en passer par un CD. Et je sais que pour les textes auparavant, l'écriture était très, très assurée, très déstructurée, et c'était nécessaire. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai acheté ton livre et ton imprimeur s'est foutu ta gueule parce qu'il y a des, il y a des lettres qui ont sauté, il a pas acheté assez d'encre, quoi. Bon, ce genre de truc. Peut-être qu'on n'aura pas à me le dire quand ce roman sera en place. Si idéalement ce roman se passe comme je le veux, c'est que les problèmes ou les questions esthétiques d'écriture syntaxique, comme on disait, de l'oralisation, ont réussi à passer complètement dans un problème de phrase, dans un problème de syntaxe, dans un problème de paragraphe.
Est-ce que ce que vous nous dites là, Jérôme Gam, c'est pas l'expression aussi de... la question, c'est pas comment faire passer une violence?
Possiblement. C'est vrai que peut-être que vous me dites ça parce qu'il peut y avoir l'effet d'une espèce de crise d'asthme, où il arrive violence à la parole ou à l'être qui est en train de parler dans ce que j'ai écrit, et qu'on ressent ça, peut-être aussi parce que les textes même peuvent parfois apporter une violence thématique. Et j'aimerais croire qu'il n'y a pas que ça, dans le sens où il y avait une violence au tout début, c'est vrai, une violence, une espèce même de joie, de jouissance à déstructurer le langage. Généalogiquement, j'étais très, très formé, j'allais dire. J'assume ce terme par les grands déconstructeurs et les grandes irrégularités de langage, et cette jouissance est très réelle. Et en même temps, on ne va pas faire des ronds dans l'eau, dans la violence, comme ça, thématiquement. Enfin, moi, je n'ai pas envie de faire de ça une espèce de paradigme, une espèce de programme, une espèce de...
Oui, enfin, dire plusieurs choses à la fois, comme vous dites, ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui doivent sortir.
C'est vrai.
Il y a un élan qui prend sa source quelque part. En même temps, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un effet burlesque. C'est drôle aussi d'écouter certaines de vos pièces.
Oui, oui, tout à fait. Je voudrais que... Mais parce que cette question de la violence, elle est réelle, c'est vrai. J'aimerais bien qu'elle soit là sans faire les affres très, très... caricatural que je pourrais, enfin qu'il faut faire attention de ne pas réaliser, quoi. Cette violence-là, elle peut exister tout en étant en infrabasse, tout en étant à l'intérieur d'une description ou d'une phrase ou d'une adresse. Elle n'a pas besoin de mettre le costume de la violence. C'est dans ce sens-là que je disais que ma provenance originale, on va dire Artel, enfin, le fait que Artaud était important pour moi, voilà, ça c'est peut-être éviter, je me parle moi-même, de reproduire ce type de violence-là, quoi, et en penser à une autre.
Artaud qui a été important pour vous, mais pas dans le son, parce que ce qui reste aujourd'hui d'Artaud, évidemment, c'est les textes, mais ce sont des pièces radiophoniques qui sont sorties, qui sont sorties aussi d'un purgatoire de la radio, pour en finir avec le jugement de Dieu, par exemple. Mais ce qui a compté pour vous chez Artaud, c'est d'abord les textes.
C'est d'abord les textes, oui, en effet. C'est pour le coup, oui, la violence profonde de pensée et d'écriture. Et ensuite, la voix était importante, mais est venue comme par après. Mais cette violence-là, ensuite, elle est passée chez quelqu'un comme... pour revenir à votre question qui est importante, qu'est-ce que c'est qu'une violence et comment est-ce qu'on peut faire violence à certaines choses sans rentrer dans toute une espèce d'esthétisation de la violence? C'est par exemple Gerasim Luka. Gerasim Luka, c'est une certaine violence faite à la langue, mais en infrabasse, à mon avis, en quelque chose qui est en train de travailler de l'intérieur. Une espèce de massage interne, ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Ici, qu'est-ce qu'on voit? ISBN plus code barre plus postcard plus description technique, ça donne quoi? Ça donne au plus vert, au plus bas du verso, au verso. Ça donne carte postale mise en liasse, épinglée. Paquet épais, un élastique, on fait flipper par le pouce sur la tranche. On fait passer les unes sous les autres, on a... Bon baiser, on est où là? Ça donne quoi? Ça donne oui, ça s'écrit comme ça, sans aspérité, comme une postcard. Hard en arrière, comme ça, comme en écoutant du chinois, trois pattes de mouche, tel un snapshot, une esquisse, un sketch, un schéma, une ébauche, une amorce, un canevas, un croquis, une idée, un début, un essai, un germe, un squelette, une maquette, un premier jet, un projet, un topo, un crayon. On voit les choses cadrées, un peu de verdure à l'angle supérieur droit. La postcard est vernie. Bon baiser, gentil chinois, jonque en bois, chapeau pointu, avenue en perspective, table garnie, nom de... autobus à impérial, nom de rue, Clouded View Road, North Point Road, Electric Road, Oil Road, Blue Pool Road, Gage Street, Peel Street, le High Court Building, L'Old Supreme Court Building, Le Battery Path, Le French Mission Building, Le St. John's Cathedral, Le Government House, L'Old Drury Farm Building, Le Bishop's House, Le HSBC Main Building, Le Hong Kong Park, Le Kowloon Park, le Happy Valley.
Aquellos ojos verdes. Jérôme Gamme est l'invité de l'Atelier du Son ce soir sur France Culture. Jérôme Gamme, on vient d'entendre un extrait, et là c'est une musique extraite aussi d'un ACR. On a pu donc entendre ça sur France Culture, un atelier de création radiophonique que vous avez, qui a été diffusé ici en janvier. Et c'est une réalisation de Marie-Laure Ciboulet. Alors on parlait d'écriture, du son, le son servant à l'écriture. Là, tout d'un coup, le studio de radio, le lieu du montage, le lieu du mixage, devient finalement une multitude de stylos d'écriture pour vous ?
Absolument. Pour l'écrivain que j'essaie d'être, la radio, la production radiophonique est vraiment un outil magnifique pour tester, pour mettre en place une écriture littéraire. La fabrication de la radio, c'est une espèce de machinerie poétique. On entend le son, on le fabrique. Il y a aussi toute l'esthétique et toute la poétique de la... Ici, par exemple, dans un studio d'enregistrement, ensuite dans un studio de montage, ensuite dans une cellule de montage, on voit comme si c'était... pour moi, c'est l'expérience que j'ai eue quand j'ai fait cet ACR. Et j'avais fait un autre ACR il y a quelques années. Il y a un lien direct entre la manière dont je travaille littérairement et ce que j'apprends à la radio. En gros, la radio, faire un ACR m'apprend un peu mon métier d'écrivain. Parce que ensuite, évidemment, c'est très différent. Il y a du son dans un. Mais justement, la littérature essaie de produire du son, essaie de produire la syntaxe, et greffer des bouts de son les uns avec les autres, les uns sur les autres, dans un étalonnage, dans une séquence de montage. Moi, ça m'apprend à produire un récit, à organiser une histoire et à écrire des phrases, littéralement.
Vous voulez dire que vous, dans votre travail d'écrivain, vous allez chercher la matière comme on peut enregistrer.
Absolument.
Ça peut être une méthode, en tout cas. La grammaire radiophonique, enregistrement, montage, mixage, peut se retrouver dans une écriture.
Complètement. Et non pas au sens, on va dire, où je vais parler littéralement de montage, etc. Non, au sens où, par exemple, quand Frank Smith et Philippe Langlois de l'ACR m'ont demandé de faire cette ACR, j'avais eu une bourse, j'étais parti à Hong Kong, ils m'ont filé un micro MP3 pour enregistrer des trucs dans la rue. Cette captation, cette façon de capter les trucs et d'ensuite de les agencer, ça, c'est la même chose dans ma sensibilité littéraire. Et je dirais même plus, quand j'ai fait cet ACR, j'ai mis au point une espèce de système pour agencer l'œuvre et qui est devenu une espèce d'outil de travail dont je me sers pour écrire le roman que je suis en train d'écrire. Il y a cette façon de... Maintenant, la différence, c'est que dans le roman, comme on disait tout à l'heure, il n'y aura pas de CD. Donc le son qu'on vient d'entendre, le son de la rue, il va falloir l'inventer, non pas simplement en décrivant des gens qui sont en train de raconter des trucs, il va falloir l'inventer avec une stylistique littéraire. Et donc ce qui m'excite beaucoup dans le fait de faire de la radio, c'est que j'ai l'impression que ça me donne des idées de style. Ça me donne des idées de mettre en place un montage, un assemblage polyphonique ou un assemblage strict dans une écriture.
Alors c'était quoi l'histoire, Jérôme Gamme, de cet ACR que vous avez commencé un peu à raconter ? Donc le titre c'est HK Live.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait la matière de cet ACR ?
Bah, en fait, j'avais demandé une bourse pour aller à Hong Kong et je voulais aller à Hong Kong parce que j'aime beaucoup les films de Wong Kar-wai. Mais en même temps, mon histoire était un peu confuse parce que j'ai un peu confondu Wong Kar-wai avec Hu Xiaoxian qui est taïwanais, qui habite pas à Hong Kong. Enfin bref, j'ai commencé à faire une espèce d'histoire sur le cinéma asiatique. Là-dessus se greffe cette bourse et les gens de l'ACR me disent « Tiens, on te file un micro, pense à faire un ACR ». Donc j'arrive là-bas et je me dis « Qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» Mais ce que je vois d'entrée de jeu, c'est que cette petite machine est superbe. C'est comme un stylo, on l'amène où on veut. Mm-hmm. Et on peut capter, on peut se brancher sur ce qui passe. Et il se trouve que Hong Kong est une ville vraiment magnifique où il y a beaucoup de flux d'images et de sons. Et donc j'ai commencé à rentrer dans une histoire entre ce que je captais du son et certains films de Wong Kar-wai qui parlent de Hong Kong. Et l'histoire s'est faite sur l'écriture sonore, l'écriture cinématographique et l'écriture littéraire. Qu'est-ce que ces trois pôles peuvent avoir en commun ? Et je crois que ce qui m'a permis de joindre l'écriture sonore au radiophonique et l'écriture littéraire, c'est le cinéma. Parce que dans le cinéma, il y a l'image, il y a le montage, mais il y a aussi la bande-son. D'autant plus quand on fait écouter... Qu'est-ce que c'est que faire écouter un extrait de film à la radio ? C'est complètement planant parce qu'il n'y a pas l'image, mais il y a le son.
À Los Angeles, j'ai vu comment Ben Gazzara sort en tux à 8h le matin, le poing aveugle après la nuit, sans cadre dans la porte. Les putes sont au repos. Les danseuses se rhabillent à 6 dans une voiture souple en cuir noir, à la conduite souple. Une baleine démarre à l'embrayage souple. Un grand chapeau garé devant la boîte de l'autre côté du strip démarre doucement. J'ai vu le sourire de Ben se tient droit backstage, ouvre la porte, se colle dans le cadre, sourit tout le temps, met une clope à sa bouche en coin, les yeux en coin. Ben sourit à son œillet rouge vif, son tox, son bao, son jabot est blanc,
Son mur est noir. Il reste là. La caméra est là. Reste. Il fait beau. Le soleil étincelle déjà. La caméra flotte sur le strip devant la voiture face à Ben plein cadre. Le soleil rentre par la gauche en haut. La lumière liserée écharde le noir plein cadre. Il fait beau. Il attend. Il va aller tuer le bookmaker chinois ce soir, bleuté, plus tard. Je vois pas les nains de jardin. J'entends le bruit de la pelouse à ras de jardin. La voiture glisse, le break, dans Suburbia. L'arroseur tourne. Je vois pas arriver la musique. Blue Velvet me rend dans la tête. La machine LA tourne à plein. Je vois pas LA. Je vois Cinémascope en noir perlé, les deux blondes. On redescend la colline de West Hollywood. Les deux blondes, une brune, platine aux petits seins sont là. Je vois, je ne vois plus que ça. La nuit étoilée, la brune aux gros seins à les lèvres rouges. La coiffure immaculée, l'arrêt sur le côté. Le driver, son chauffeur, le garde du corps éclaire la nuit à la portière. La lumière cuir crème foncé, le plafonnier éclaire la route, les buissons. Il la fait remonter, elle démarre, il lui parle. Ça sent le chaud, la nuit est tiède, l'air est encore tout noir perlé des villas alentour. Elle a les ongles rouges. Un verre coule, un drink coule dans mon verre. Un whisky goulayant plan large coule dans mes yeux. Mes bronches se réchauffent. Un soufflet tiède les déplie. West Hollywood plan large glisse dans ma gorge. Ben progresse en apnée souple sur les toits des villas de Bel Air. Évite un chien. Son smoking est complet. Pénètre celle du bookmaker chinois. Les reflets bleus phosphorescents de la piscine éclairée dansent derrière lui. Ben, dans l'entrefilet sans palme et sans tuba, nage dans l'image.
Bah voilà le cinéma, Jérôme Gamme. Là, c'était un texte lu par vous, issu d'un livre CD, Flipbook, qui est paru aux éditions de L'Attente. Et donc là, il s'agit de la description d'un film de meurtre d'un bookmaker chinois. C'est ça, de John Cassavetes.
Absolument mélangé à un film ou deux, d'ailleurs, de David Lynch. Mais toute l'histoire de ce livre, c'était de... Je suis fasciné par le cinéma de plan-séquence. Très, très impressionné par ça. Et je voudrais... C'est un peu comme ce que je racontais sur la radio, c'est vraiment la même chose. Je crois que le cinéma a quelque chose à m'apprendre, que le cinéma de plan-séquence a quelque chose à m'apprendre quant à la phrase. Je viens de la poésie, comme vous l'avez dit, on parlait d'Artaud, donc je viens de gens qui ont des soucis avec la phrase, en gros, pour le dire très vite, qui ont des problèmes d'asthme ou de... Bon, comment faire une phrase? Qu'est-ce que c'est que faire une phrase? Or, je crois que moi, personnellement, j'y arrive pas tout seul, et j'y arrive certainement pas tout seul avec la littérature. Je suis pas suffisamment mûr pour ça. Or, la radio y arrive, et le cinéma y arrive très très bien. Je m'étais dit, je vais observer ces gens, et je vais regarder comment ils font des plans séquences, et j'essaierai comme ça de faire une phrase.
Et c'est pourquoi, dans ce qu'on vient d'entendre, ce fameux débit, cette élocution heurtée, est absente, en fait, quasiment.
Absolument, je suis content que vous l'ayez remarqué, parce que ça veut dire que ça fonctionne un tout petit peu, que je n'étais pas complètement cuit quand j'ai... Oui, voilà. Là, c'est le chaînon manquant, le lien entre la poésie que j'ai écrite et le roman que je vais écrire, c'est le cinéma, ou c'est la radio, ou c'est autre chose. C'est quelque chose qui permet de lier.
Mais au-delà de ça, tout ce qui rejoint ce que vous dites, c'est la question du récit oui. Dans la poésie, en fait. C'est cette recherche-là. Il y a toujours la question de la subversion, de la nouveauté, de chercher d'avoir son propre sillon. Est-ce qu'il n'est pas là, votre propre sillon, Jérôme Gamme, dans la recherche du récit?
Oui, en tout cas, c'est ce que j'ai à faire. J'ai identifié ça comme ma tâche, et c'est ce que j'ai à faire. Et comme vous dites, je crois que je vais emmener ce que je sens, ressens de la poésie avec moi là-dedans. Il ne s'agit pas de la laisser, etc. Non, au contraire. Mais je voudrais le beurre et le reste. Tu vois, ce que vous dire.
On la salue au passage.
Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Je voudrais l'intensité de la drogue pure de la poésie, de son rapport à l'expression pure, à la rage de l'expression, comme dit l'autre, et quelque chose qui ne soit pas complètement solipsiste, autologique ou elliptique. Je voudrais quelque chose qui puisse partir, s'adresser, figurer quelque chose d'un monde, entre guillemets.
Et pour ça, Jérôme Gamme, vous allez vous nourrir à toutes les sources possibles, la réflexion sur l'influence des arts, des autres arts, des autres formes d'expression. Ça, c'est quelque chose que vous menez aussi en souterrain. C'est même l'objet d'un livre qui doit paraître ces jours-ci, publié par les presses du Macval, je crois.
Absolument. À l'occasion d'une résidence au Macval cette année, 2011, j'ai pu regarder ce que les arts plastiques, les arts d'installation notamment, et la façon dont les artistes parlent de leur travail, pouvait aussi m'apporter, et donc j'ai essayé de synthétiser un peu tout ce dont je parle depuis tout à l'heure, avec cette notion cassavetienne de « under the influence », d'être sous influence. Et en quoi est-ce que les arts plastiques, plutôt que de représenter l'écriture, non, peuvent constituer un modèle, mais pas un modèle au sens hiérarchique ou au sens, etc., peuvent constituer vraiment quelque chose où on peut apprendre, j'allais dire anthropologiquement, ce qu'il en est un peu de l'expression aujourd'hui, oui.
C'est apprendre en allant dans un musée, apprendre en rencontrant d'autres artistes.
Ouais, en fait, dans ce livre, ce qui m'intéressait dans le musée, c'est un peu une fois de plus comme Lardo, c'est la machinerie, c'est le côté où il y a les pompiers et les docks de livraison et les gens qui installent les trucs. C'est ça ce qui m'intéresse beaucoup, le lieu de production. Le lieu de production, le lieu de distribution, le lieu d'intendance de tout ça. Et en même temps, oui, les artistes, oui, je les oublie pas, je suis au courant que les œuvres sont là par... oui, mais il s'agissait pas d'aller interroger des gens, de leur dire leur inspiration, non, voir surtout comment ils travaillent. Comment ils travaillent, ça m'intéressait beaucoup. Oui.
Jérôme Gamme, en préparant cette émission, vous avez même proposé, en fait, pour dire la vérité, de faire une performance dans le studio de l'atelier du son pendant cette émission. Ben, je vous propose simplement de rejoindre le micro sur pied pour nous proposer, je ne sais pas, qu'est-ce que vous... On va découvrir.
Oui, voilà. Okay. Ou alors... C'est pas les traces, non, les rébus, le fantôme, le cadre, les stitches, tout ça. Les bruits, non, la suture, l'écoute, le fil d'Ariane, non. La présence, l'épreuve, l'incarnation, non. Mille fois non. Le signe peut-être alors quoi? La chose? Oui, la chose, oui. La chose est dans les choses. Et les choses sont dans les choses. Le souffle, l'âme? Non. Elles sont entre choses. Les choses perçoivent les La bande. La bande passante sature gentiment. Le bruit ambiant, j'entends tout depuis la moquette zoom sur moi. Je loupe grossissant, je tapote entièrement le micro. La bonnette est là, ferme la porte, scellée. J'entends rien. Je m'entends respirer mon bocal sous les vitres à la radio. La table traplane agencée. Micro ouvert, micro fermé. Il me fait des gestes, là, me sourit légèrement forcé. Son sourire très légèrement appuyé. On est on, là? Elle parle. Elle s'écoute parler. Elle est belle. Elle déroule. On est à l'antenne, là? Regarde le bout de son nez, note. Se regarde par des routes parfaitement, me regarde. Elle m'invite du regard à rentrer. J'entends le silence, mes beignets bouffants. Elle me dit, je m'y mets. Je tourne autour du micro, calme mes pieds sur le pied, je vais balancer. Cale le micro sur ma voile, micro sur ma bouche, micro colle ma bouche, la bonnette se déplie. Je mange mes mots, j'enfonce le micro dans ma... J'entends plus ma voix, je vois pas les baffles. J'entends l'amplification sans les fils sous mes doigts, le son du micro dans ma gorge, ma bouche est bourrée. Elle est prête, vide. On balance. Je tourne autour du son, on balance. Le son métallique amplifié rentre en moi. Le son neutre bondit sur moi, m'enrobe, un buffer. Un parpaing rebondit, me défait en demi-cercle face à moi, volatile. C'est pour une animation? Non. Une histoire, alors l'histoire d'une... Une action pour toutes? Non. Pour passer le temps, y voir plus clair? Non. Passer un bon moment, alors pourquoi... Oui, mais non. Alors c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire déplacer... Ça veut dire oui. Ça veut dire non. Ça veut dire les sous-titres en VO? La fiction, les beignets, mon casque bouffant les oreillettes font passer le récit dans la voile. La langue font passer le son à passe. L'image de mon corps calme, agité. Je mouve-me de bouche. Mouve-me de bouche. Mouve-me, ruit de bouche. Ruit. La didascalie de mon corps, mon ruit alterne. Je à côté dans la cabine décalée. Il me fait des gestes, là. Il me sourit. Je m'y mets. On balance. Je tourne autour du son. On balance.
Vous écoutez l'atelier du son, Thomas Baumgartner sur France Culture.
Accélérer tout le temps, faudrait maintenir au moins, faudrait se mettre à vriller, faudrait partir en vrille soi-même, en fait quoi? Faudrait se laisser quoi? Ferme ta... Je dis vriller, je dis se laisser aller, je dis laisser pisser, je dis que je sais plus comment je m'appelle, je suis dedans et que je sais plus où ça commence, ça finit, je dis que je dis merci ma chérie, merci. De rien chérie, je suis tombé dans l'escalier, c'est toi qui conduis? Ferme ta gueule, ferme ta... Une découpe, un recadrage, une recherche, un contrepoint, une découverte? Non. Une notion? Non. Une apothéose, un équilibre, une densité, un chemin? Non. Ferme ta gueule, 30 secondes. J'ai envie que ça continue. Comment on place? J'ai envie que ça continue. Ça me fait du bien. Comment on place? Je veux en placer. Je veux que ça continue. Comment en placer? Je veux que ça me ferme. Faudra l'ouvrir et fermer sa gueule à la fois. Ça me fait du bien. Faudra l'ouvrir et que ça me la ferme à la fois. Faudra en placer une. Faudra en placer une depuis l'avoir fermée à la ta gueule. Ça me fait du bien cette musique, ces gros seins qui commandent à ma place le feu, brûlure de l'action, les conserver, les mettre dedans, les faire couler. Ça me fait du bien. Ça. Ferme ta gueule et écoute. Ferme ta gueule et ça me fait du bien quand tu fermes ma gueule. Monte, monte, monte le son, faire taire dans le son du... Monte le son, faire taire par le son, monte le bruit du son au plus haut. Le plus haut possible, littéralement monte, faire recouvrir la voix par le son, la voix de ta gueule. Par le son du bruit, ta... ferme ta... dans le bruit, là. Ferme le son du bruit dans la puissance, ferme ta... Coupe ta voix, mange ta gueule, coupe tes mots et ferme-la, ta... Faire ce que je ne connais pas, parler ce que je ne connais pas, parler ce qui n'est pas à moi, parler depuis ce que je ne connais pas, parler à partir de ce que je ne connais pas, interrompre l'écriture par autre chose, couper l'écriture par autre chose, faire naître autre chose, les mots, le bruit, la voix, à faire partir de l'intersection d'autre chose, la faire devenir si elle est, elle est devenir.
C'est Jérôme Gamme qui est l'invité de l'Atelier du Son ce soir, et juste après la performance que vous nous avez offerte, on entend là un duo d'une certaine manière, Jérôme Gamme, puisqu'on vous entend à la voix et à la batterie, c'est Jean-Michel Espitalier.
Absolument, et c'est quelque chose que je suis très très heureux de faire parce que je suis très proche de Jean-Michel Espitalier et très fan de son travail, et il se trouve qu'en plus d'être écrivain, Jean-Michel Espitalier est le batteur qu'on entend, un batteur très très talentueux, et on a eu ce désir de faire un duo, et c'est ce qu'on dit quand on nous demande ce que c'est. C'est pas entre un musicien et un poète, c'est entre deux poètes. Mm-hmm. Il y en a un qui essaie de parler, et il y a un autre qui fait, l'autre qui fait de la batterie. Et c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. C'est un travail qu'on a commencé il y a pas très longtemps. Et l'idée, c'est de faire ressentir la tension entre la percussion directe non seulement du son, mais du pur rythme, et les tentatives de l'autre, c'est-à-dire de moi, en train d'essayer d'en placer une.
Jean-Michel Espitalier, qui était le premier invité de l'Atelier du Son cette année. Alors vous dites, c'est un travail qu'on a commencé, ça veut dire qu'il y a des répétitions, comme des groupes, comme des groupes de rock.
Oui, on a eu la chance d'avoir deux ou trois dates ici à Paris et à Marseille pour tester en live, parce qu'il y a ça, c'est le bon test, le live. Mais oui, c'est un travail aussi de studio, et on s'enregistre, on s'écoute, on réajuste, etc. Oui.
Le rock aussi, une influence alors ?
Oui. Très forte, mais pas autant. Enfin, Jean-Michel, lui, il est batteur dans un groupe de rock, etc. Quoi. Moi, c'est une très très forte influence, mais plus dans la voix, plus dans l'anglais, plus dans ce que les gens disent. Je suis pas musicien.
Je suis prêt demain à toutes les aventures. Ils font du bruit, font de l'eau, l'eau jaillit, on entend à gorge, il fait beau, le ballon rebondit, les enfants sourient. On entend le bleu de l'eau chlorée, les rayons de soleil marbrés. L'herbe est verte, gazon mouillé, les enfants éclaboussent. Il fait beau, les enfants jouent, les oiseaux jouent. Loin, un avion passe, approche. Ils vont briller. Les cimes, on entend les oiseaux, l'avion passe. Le capitaine va bientôt arriver, partant bleu, elle met sa voix dans le micro, à voix ronde, à Ray-Ban. Il fait beau, sa chemise blanche, costume noir et saillante, sa veste cintrée. Il mâche bien ses mots, dernier réglage sur la piste, l'avion accélère, rebondit. Il tangue doucement, mes oreilles pop, stabilisées tout droit. Savon brise, à plane, en poussant...
Jérôme Gamme, on parlait tout à l'heure, vous me parliez d'Antonin Artaud. Et si je vous dis Pierre Repp, est-ce que vous voyez qui est Pierre Repp, qui était quelqu'un qui était un comédien et qui jouait sur les saccades et sur les bégaiements, là, de vrais bégaiements, pour arriver évidemment pas aux mots qu'on attend. Enfin, ça vous dit quelque chose ?
Non, je suis ignorant.
Je le répète d'ailleurs quotidiennement à mes élèves. Oui, je suis aussi faux presseur de diction.
Parmi vos projets, il y a quelque chose qui est de l'ordre, est-ce qu'on peut dire, du théâtre autour de Don Quichotte ?
Oui, Cyril Test, qui est un metteur en scène de théâtre qui m'a beaucoup impressionné, dont j'ai vu plusieurs travaux, est venu vers moi pour me demander, avec des musiciens, de faire un travail autour. Alors, je m'empresse de dire qu'il ne s'agit pas d'une adaptation, parce que j'y arriverai pas, et puis parce que c'est une traversée de Don Quichotte. Et ça m'intéresse beaucoup. J'essaie de mettre en place une espèce de machine Don Quichotte. et qu'est-ce que ça ferait au mot et qu'est-ce que ça ferait au récit. Parce que Don Quichotte, c'est une espèce de machine à produire du récit comme ça, de manière très très belle. Mm-hmm. Et donc c'est un travail que je mets en place en ce moment et que Cyril va mettre en scène. Enfin, ce sera une performance avec des musiciens au Théâtre de la Gaîté Lyrique en février prochain. Et donc ça, c'est un très fort désir de se frotter à... parce que la performance, moi, je n'avais pas prévu d'en faire de manière comme ça. Et donc, le dispositif était très simple. C'est un micro sur pied avec moi derrière, en gros. Mais j'avais un fort désir de rentrer, j'allais dire, dans le désir d'un autre, c'est-à-dire d'un metteur en scène qui puisse ou s'emparer de mes textes, ou s'emparer de mon corps, de certaine façon, et dire « mets-toi là et essaie donc de faire ça ». Donc, je suis heureux de faire ça. Peut-être que c'est très casse-gueule, on verra. Mais...
D'avoir une matière aussi... aussi fondamentale, une matière première, véritablement, oui. Comme Don Quichotte, comme ce roman fondamental. Oui. Est-ce que ça relance aussi d'autres thèmes, ou ça vous permet de vous appuyer sur d'autres thèmes pour parler là, non plus de la forme, mais de la matière même de l'écriture ?
Oui. Oui, et en même temps, comme je ne vais pas adapter le roman, je ne vais pas me servir des thèmes au sens strict, mais oui, je vais me servir des personnages, je vais me servir des structures dramatiques. Absolument. C'est une ouverture sur quelque chose qui n'est pas directement la langue ou ce que j'ai fait travailler pour l'instant. Oui, tout à fait.
Toujours ce mouvement dont vous parliez tout à l'heure.
Absolument, absolument. Et je crois que Quichotte est un personnage super pour ça parce que c'est une pure usine. Enfin quoi, ça tourne tout seul et ça rayonne tout seul. Donc c'est très intéressant.
En ce moment, vous êtes à New York. Là, vous arrivez de New York. Vous allez y retourner sans doute bientôt. Vous y habitez en fait.
J'y habite pour quelques mois parce que j'ai eu une possibilité d'être à New York University pour quelques temps pour écrire en fait, ce que j'y enseigne pas. Mais
en tant qu'universitaire, en tant que
non, en tant que enfin ouais, enfin je suis oui si je m'entends, je suis universitaire. En fait. Mais non, j'y écris quoi. J'enseigne pas ni quoi. Donc oui, ça me permet d'être là-bas. Mais ce qui me plaît, en fait, c'est d'être entre les deux.
Mais justement, entre les deux, ça veut dire qu'être dans un pays étranger, ça vous permet de continuer le travail sur la langue en étant éloigné de la langue initiale. Est-ce que ça joue, ça ?
Oui, ça joue un peu parce que, connaissant bien les États-Unis et l'anglais étant une langue dont je me sers pour travailler, je peux tout à fait de plein pied dans le truc, mais je peux aussi m'en retirer pour en effet être un peu comme ça isolé et travailler. J'aime bien faire. C'est comme si c'était une espèce de. Oui, enfin, c'est ça, une résidence d'ailleurs, de rentrer, shoot in and out, rentrer, faire des trucs et se barrer, quoi, après. Ceci n'est pas une liste. Comment mener une liste pour n'en citer qu'un ? Je citerai pour ne citer qu'elle, lui, pour ne citer que, pour ne pas les citer. Comment mener une liste en ne l'achevant pas en comment ? La poésie contemporaine aujourd'hui, c'est la poésie contemporaine aujourd'hui, c'est ce. Mais il faudrait aérer tout ça, l'exposer dans des doses, compacter, mélanger les, doser les, faire des exposés dans les listes, classer, recouper, préciser les, pondérer afin de représenter en la, dans sa diversité, afin de, il faudrait justifier ces choix, c'est. Il faudrait, si on en parlait, parler de tout ce qui s'écrit, la paix, tous, parler de ce qui, la structure courant, ce qui déterminait le plus saillant, le commun, le plus fréquent, le diff, errant. Voir dans les textes et dire ça, ça va avec ça, ça va là. Et ainsi monter en une architecture, en une boîte de rangement, un classement. Et ainsi offrir en imposer un des tendances, des modes, des écoles, des esthétiques, politiques, poser un ordonnancement du. Il y a un champ, on le constitue. On leur donne. Tout n'est pas dans tous. Il y a des œuvres. Requiert se mettre sur plonge, urchant, et classer, ordonner le réel éthique selon les éléments d'éthermicrite, R1, variant, c'est évident, c'est. La poésie contemporaine aujourd'hui, c'est. Alors ça résiste, persiste, ça insiste à ne pas rentrer dehors, ça dedans ne veut pas. Comme si ce qui est impossible, ce n'est pas le voisinage des choses, c'est le site lui-même où elle pourrait voisiner. Dit en parlant d'une liste, Michel Foucault préface à les mots et les. Ce qui pourrait peut se dire d'une. Il ajoute.
Alors, Jérôme Gams, ce qu'on entend en ce moment, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans un disque qui accompagne un livre satire, suivi donc de Ceci n'est pas une liste. En l'occurrence, c'était Ceci n'est pas une liste, qui est paru aux éditions Aldante, et aussi qu'on peut entendre, qu'on a pu entendre et qu'on pouvait entendre sur Webcine Radio. Et il se trouve que le promoteur, organisateur, porteur du projet Webcine Radio est avec nous pour la deuxième partie de l'Atelier du Son. Bonsoir, Dominique Balay.
Bonsoir, Thomas.
Je vous présente Jérôme Gams, je vous présente Dominique Balay. Voilà, en fait, vous avez travaillé ensemble, mais à distance.
Ouais, je suis vraiment ravi d'être là ce soir et de te rencontrer, Jérôme.
Même chose.
Voilà, donc on a pris contact il y a quelques mois pour une invitation sur Webcine Radio. Mm-hmm. On s'était pas rencontrés, On a failli se croiser à Nîmes, parce que je crois que tu es venu avec Jean-Michel Hospitalier à Nîmes.
Oui, tout à fait.
Et on s'est raté là aussi, et on se rencontre ce soir. Donc oui, je suis vraiment ravi.
Webcine Radio est basé, vous êtes basé à Nîmes, mais Webcine Radio est de partout. Voilà ce que c'est. Donc ça se passe en ligne. Vous invitez Dominique Balay chaque semaine un artiste, un poète, à proposer une liste d'écoute. C'est ça, avec des pièces qui peuvent être signées par lui ou par elle, mais aussi choisies par lui ou par elle ailleurs, en fait, en ligne. Et cette liste-là, c'est quoi ? C'est toutes les semaines un artiste nouveau sur Webcine Radio.
Voilà, donc si je reprends du début le principe et l'histoire de Webcine Radio, donc c'est à l'invitation d'une revue en ligne qui s'appelle le Droit de Cité, donc qui est une émanation d'une autre revue papier, celle-là, qui s'appelle Cité. Donc, qui m'a proposé en fait de monter un atelier autour du son. Voilà. Donc, j'ai pensé à monter une web radio. Très vite, je me suis intéressé en fait à ce qui est pour moi une source fondamentale dans le son et qui s'appelle ubu.com. Mm-hmm. Donc, un site que vous devez connaître.
Oui, Ubu Web, donc qui est mené par le poète new-yorkais Kenneth Goldsmith et qui à la fois dans le contemporain et puis aussi dans le patrimonial de la création sonore au sens le plus large, en fait.
Exactement.
Compris jusqu'à la musique.
Voilà, exactement. Et à l'occasion de ce travail, l'idée, en fait, c'était d'explorer ces ressources et de ne pas le faire uniquement moi, ça, c'est pas très intéressant, d'appeler d'autres personnes à le faire avec moi. Et très vite, c'est devenu comme une espèce de monoprogramme où j'invitais, en fait, chaque semaine un artiste à intervenir sur ce fond-là pour lui donner l'occasion de l'explorer. Et ensuite, on le rediffuse sur la web radio qui est greffée, qui est accueillie par la revue Droit de Cité.
Oui, parce que c'est aussi, on peut toujours réécouter les invités successifs de Webcine Radio.
Voilà, donc c'est un projet de la permanence. C'est-à-dire que les playlists qui sont proposées deviennent à leur tour des archives et qui sont consultables en permanence. Et sur lesquels d'ailleurs certains artistes peuvent réintervenir après coup. Donc là, on utilise, j'allais dire, tout le potentiel de l'outil numérique.
Alors parmi les derniers invités, il y a eu Pierre Bastien, Joachim Montissui, Bruno Letor qui travaille ici aussi à France Musique, Martha Rosler qui vient aussi de l'art contemporain. Donc on voit aussi que c'est international. Et puis il y a eu une rencontre assez fondamentale pour vous, c'est le musicien John Zorn.
Oui, voilà. Donc c'est un travail que j'ai pas du tout fait. Hein. Une classification des artistes qui sont invités. En fait, les invitations sont lancées, j'allais dire, au gré de mes rencontres. Hein. Un peu comme dans une bibliothèque, un livre en entraîne un autre, une phrase en entraîne une autre. Voilà. Donc c'est par exemple comme ça que j'ai rencontré Jérôme. Enfin, que j'ai rencontré le travail de Jérôme. Hein. Mais disons que c'est comme ça que ça se passe, la rencontre avec l'invitation. Auprès des musiciens, John Zorn, ça s'est passé un 2 janvier, je lui ai envoyé mes vœux en lui proposant d'intervenir sur la radio, toujours avec le même principe, enfin l'invitation et d'une simplicité, j'allais dire, programmatique. Hein. Et donc c'était tellement simple et il neigeait tellement ce jour-là sur New York. Il m'a dit, écoute, je suis bloqué 24 heures, on va travailler ensemble.
Donc, c'était la première fois. Il était coincé devant son ordinateur,
c'était
il ne pouvait que répondre à votre...
C'était le blizzard à New York.
Mais ça compte aussi, hein, le climat, dans ce genre de choses.
Mais tout compte, je veux dire, c'est de l'ordre de la rencontre, en fait. Hein. Ouais. Je n'ai pas, évidemment, rencontré tous les artistes nombreux qui participent à ce projet. Quelques-uns sont des gens que je connais, d'autres, la plupart, je ne les connais pas. Et John Zorn, ça s'est réellement passé comme ça. Et donc, on a, sur 24 heures, 48 heures, on a échangé. Et il a fini par livrer une playlist qu'il appelait Essential Ubu. Et donc, il nous a menés assez loin, parce que ça a débouché sur une rencontre avec Kenneth Goldsmith, qui est venu à The Stone, donc qui est le lieu, je ne sais pas si Jérôme connaît ce lieu à New York. C'est vraiment un lieu où il se passe beaucoup de choses du point de vue du sonore.
Alors, The Stone, ça a été le lieu aussi de quelque chose d'important, de manière générale et pour Webcine Radio en particulier. Ça a été le lieu d'un direct, d'un live long live de 7 heures. Et vous étiez présent et vous avez diffusé ce direct-là qui s'était fait aussi en mémoire, en hommage aux victimes de Fukushima.
Alors voilà, c'est dans le programme de Webcine Radio. Donc c'est une radio web, mais qui n'a qu'une envie, c'est de sortir du web. Hein. C'est-à-dire de traverser ça et puis d'aller à la rencontre de multiples situations. La relation qui s'est nouée avec John Zorn a rapidement débouché en fait sur cette proposition, moi qui m'a honoré, hein, puisque j'ai Webcine Radio était la première radio invitée pour faire un direct à The Stone, donc à l'occasion de ce festival qui tournait autour de Fukushima, hein. Donc c'est pas un hommage aux victimes en fait, c'est à l'initiative de Otomo Yoshihide, donc qui est un artiste japonais, ouais. Hein, donc figure charismatique de la musique électroacoustique et japonaise, donc qui est originaire de Fukushima et qui après le 11 mars, donc bon, Fukushima, une ville qu'il détestait adolescent, mais qu'il a redécouverte à l'occasion de cette catastrophe, donc il a décidé en fait de ne pas laisser Fukushima mourir une deuxième fois, c'est-à-dire mourir une première fois avec la catastrophe et puis une deuxième fois parce que aujourd'hui Fukushima résume à lui seul cette catastrophe-là. Donc on n'en sort pas. Aujourd'hui, les gens de Fukushima, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a 300 000 personnes qui vivent à Fukushima. Ces personnes-là vivent, j'allais dire, normalement. Mmh. Hein, les commerces sont ouverts.
Il y a une vie quotidienne. Qu'est-ce qu'il y avait pendant ce festival et pendant ces 7 heures de direct? Qu'est-ce qu'on a pu entendre? Alors, malheureusement, contrairement aux autres productions de Webcine Radio, on ne peut pas la réécouter. Il fallait être là, c'était le 15 août.
Voilà, il fallait être là. Donc ça, c'était un peu le deal avec John Zorn, hein, donc un plateau composé par John Zorn lui-même, donc, qui réunissait énormément de musiciens japonais résidant à New York. Donc il y avait des gens, des gens importants dans la musique, notamment Ikue Mori, Shena Dunkelman qui était là, Nels Klein, Chuck Bettis, Thomas,
Chuck Bettis
que vous connaissez.
Oui, voilà, qui était de passage à Paris il y a quelques temps.
Avec Bérangère Maximin.
Avec Bérangère Maximin, ouais. Et qu'on a pu entendre la semaine dernière, il y a 15 jours sur Webcine Radio pour sa propre playlist. On va continuer sur la question de Fukushima, mais Jérôme Gam, quand Dominique Ballet est venu vous a contacté, vous a proposé cette expérience, qui est quand même singulière, même si quand on l'explique, le principe est simple, mais comment vous avez réagi, faire votre playlist à votre image ou à votre goût, tout en vous intégrant vous-même?
Moi, j'étais vraiment ravi. J'ai pas directement pensé à l'image que ça pourrait, ou à mes goûts, j'ai pensé au jeu de triangulation entre en mettant le web, le fait que c'est sur le web de côté, entre le son, ce que je trouverais comme pièce à faire entendre, et puis mon travail d'écrivain. Et du coup, j'avais très envie de faire entendre, par exemple, un cinéaste mexicain qui s'appelle... je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, mais enfin, c'est un cinéaste qui est très intéressant. J'ai fait entendre... David Lynch. Ce qui m'intéressait, c'est de faire entendre des gens qui parlent dans leur langue à côté de pièces de musique et donc d'indéterminer le sens de ce qu'ils racontent et le son, non pas pour dire que ce qu'ils racontent n'est pas important, au contraire, pour le potentialiser de cette manière-là. C'est-à-dire de le matérialiser dans du son pur et d'en faire ressentir le sens d'une manière complètement décadrée. Et donc, une fois de plus, c'était un travail à la fois plastique et, comme souvent les travaux plastiques, très fortement intellectuel par rapport à ce qui a été dit, notamment par quelqu'un comme Lynch qui parle de ses... Le morceau que j'ai mis, c'est Lynch qui parle quand il avait 20 ans, qu'il était aux Beaux-Arts, il était en train de peindre des trucs, il avait l'impression que ce qu'il peignait bougeait devant lui. Et donc, on a un rapport, à mon avis, très, très intéressant sur son cinéma, mais qui passe à travers le son de la voix. Et donc c'était une espèce de surface dans laquelle on peut mettre à l'étal plusieurs choses, plusieurs types du son, du sens, de la parole, et faire travailler tout ça de manière directe, sans hiérarchie et sans classification générique qui préempte ce qu'on pourrait faire avec.
Et surtout que cette playlist ne soit pas une liste, d'où j'imagine ce morceau, vrai, ceci n'est pas une liste, absolument, qui était intégrée à cette écoute proposée.
Absolument. Le Mexicain dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même...
Inarritu.
Non, c'est Carlos Regadas, qui est un très, 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 très beau metteur en scène. Ça m'intéresse aussi de mettre... Il y a un autre cinéaste qui est turc, qui s'appelle Jelan, et donc de les faire entendre en turc, en espagnol, en anglais... vraiment travailler sur qu'est-ce que c'est, une espèce de réflexion sur qu'est-ce que c'est que la voix, la langue étrangère, une langue qu'on ne comprend pas, mais sous forme de son, comme si le son permettait de faire passer l'un dans l'autre toutes ces questions-là et donc de les potentialiser.
On peut réécouter ce programme actuellement, hein, sur Webcine Radio.
We'll be right back.
Shaina Dunkelman, c'est elle l'artiste dont la liste tourne cette semaine sur Webcine Radio. C'est une artiste, Dominique Ballet, qui est japonaise, qui a grandi à Tokyo, qui a travaillé en Californie, je crois, beaucoup. Et donc vous l'avez invitée cette semaine et ça nous permet aussi de continuer de parler de Fukushima et d'un projet que vous menez en ce moment, que vous tentez de monter, parce que c'est un projet d'une certaine ampleur.
Oui, disons que ça, oui, c'est un projet qui tient à cœur et qui est un prolongement de... Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qui est un prolongement de Webcine Radio. Hein, c'est-à-dire que il s'agit en fait de simplement de continuer, de rester à la disposition du projet Fukushima tel que la première édition a eu lieu en août dernier, hein, donc, qui avait donné lieu donc, à la retransmission en direct. Mm-hmm. Donc qui était à la fois en direct sur Webcine Radio et qui était retransmise également à Fukushima même, hein, où un festival était monté, qui a réuni plus de 20 000 personnes, hein, des gens de Fukushima, puis des gens qui venaient de l'extérieur de Fukushima.
Il y a un collectif qui s'appelle Fukushima point d'exclamation, qui est mené par l'artiste dont vous parliez tout à l'heure, Otomo Yoshihide. Et là, vous voulez les accompagner, en fait.
Voilà, c'est ça. Ça part d'une envie qui est de rester à disposition de ce projet-là, hein, et sans gêner et sans parasiter. Donc, l'idée, c'est de partir là-bas, de partir au Japon, et puis de créer sur place des pièces sonores et de monter des directs, en fait. Hein. Le point de départ, c'est vraiment d'arriver à donner la parole à des gens qui en sont a priori privés. Un habitant de Fukushima ne peut pas dire qu'il vient de Fukushima. Oui. Immédiatement, il est stigmatisé.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire entendre, alors ? Leur parole à eux, des sons pris là-bas, le travail de ce collectif, donc, qui est quand même mené par un artiste ?
Le principe, ce sera de suivre le travail du collectif, donc à travers trois axes principaux, la préparation de la prochaine édition du festival, qui aura lieu cet été, les workshops qui montent tout au long de l'année donc sur ces questions-là et qu'ils animent à Fukushima même, et une station de radio qui s'est montée là-bas à l'occasion de la catastrophe et qui s'est donnée pour mission en fait, de déconstruire tous les flux d'informations, la masse de discours qui finissent par étouffer en fait une réalité, par masquer une réalité. Alors il va se passer quelque chose en juin de cette année, donc qui correspond à la période où on va y être. 100% du parc nucléaire japonais sera à l'arrêt entre les centrales qui sont définitivement cassées comme Fukushima Daiichi, celles qui sont en train d'être réparées et celles qui seront en maintenance obligatoire. Il va y avoir une petite fenêtre d'un mois.
Hein, qui est rarissime, hein, Dominique Ballet, qui normalement n'est pas censé arriver.
C'est une situation totalement inédite, et d'autant plus inédite qu'elle est issue ni d'un référendum, ni d'une décision politique. Enfin, c'est vraiment une parélie. Hein. Il y a une parenthèse qui s'ouvre. Ce sera peut-être le vrai printemps de Fukushima. Et ça m'a semblé...
Et donc c'est cette période-là que vous avez choisie pour faire exister en fait ce projet-là que vous êtes en train, pièce par pièce et brique par brique, de monter.
Voilà,
ce sera au mois de juin, on entendra ce que vous décriviez, donc quelque chose qui est à la fois de l'ordre du documentaire et de l'artistique, c'est quelque chose qui est multifacette, et même j'imagine que la forme n'est pas encore arrêtée à l'heure où on parle.
Voilà, donc c'est un projet qui est en cours d'écriture, donc il s'agit d'un documentaire de création, un petit peu comme pour Jérôme. Je partirai probablement avec un preneur de son qui aura un petit appareil pour prendre les sons, un traducteur. La question de la traduction sera très importante. Hein. S'agissant de ce pays, on sait que la question de la langue, ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas français. Mmh. Et puis surtout, ils sont dans une réalité probablement qu'il y a besoin d'un traducteur pour qu'elle arrive jusqu'à nous.
Donc, vous cherchez encore des partenaires ?
Alors voilà, donc je suis en recherche de partenariat. Pour accompagner le projet et également, évidemment, pour le financer.
Et vous partez, ou en tout cas, vous serez suivi par un médecin ? Parce que vous allez à Fukushima, donc voilà.
Voilà. Alors, oui, alors ça, c'est... Bon, ça fait partie des choix du projet. Hein. Il ne s'agit pas pour moi de me mettre en danger. Donc, effectivement, il y aura tout un... Bon, il n'y aura pas de repérage possible pour ce projet-là. Hein. C'est un projet sans repérage. Donc mais au moins, il y aura toute une préparation sanitaire. Donc un médecin avec qui je suis en contact, qui va me mettre en place un programme, notamment pour la durée d'exposition aux radiations qui sont réelles. Enfin, je veux dire, là-bas, les gens vivent normalement, mais
Le danger existe. Quoi.
Voilà, dès qu'on met le pied en dehors du train qui vient de Tokyo et qu'on allume son dosimètre, on peut être par endroit à 40 fois la dose admise. Donc voilà, donc ça, ce serait une contingence du projet lui-même. Ce n'est pas du tout quelque chose que je jouerais dans les pièces radiophoniques. Mm-hmm.
Dominique Ballet, ça veut dire quoi Webcine, radio, ça vient d'où ce nom?
C'est donc un mot qui est formé. Donc à partir d'un affixe sine, hein, donc qui n'est mis ni au début ni à la fin, mais qu'on a mis au milieu, que j'ai choisi de mettre au milieu, donc qui veut dire ensemble, hein, ensemble dans le son. Voilà, sine, hein, un affixe grec.
Oui, mais c'est un programme.
C'est un programme.
Et on retrouve Shaina Dunkelmann, un extrait, donc sa liste est sur Webcine Radio cette semaine. Merci beaucoup Dominique Ballet, bonne chance pour ce projet dont vous êtes venu nous parler ce soir. On prendra des nouvelles bien évidemment, et merci à vous Jérôme Gamme d'être passé par le studio pour avoir fait connaissance. On rappelle donc le livre qui doit paraître ces jours-ci aux presses du Macval de Vitry-sur-Seine, le titre
« Sous influence, ce que la littérature doit à l'art contemporain ».
Et à suivre aussi donc la performance autour de Don Quichotte que vous ferez à la Gaîté Lyrique à Paris les 21, 22 et 23 février. Voilà pour les dates. Et puis toujours la résidence à New York qui continue. On mettra toute une série de liens évidemment sur le site de l'Atelier du Son. L'Atelier du son s'est terminé pour ce soir. C'était préparé et coordonné par Inès De Bruyne et Yael Mandelbaum. Au son, il y avait ce soir Martin Delafosse et à la réalisation Véronique Lamandour. Complément podcast et commentaires, c'est sur franceculture.fr. On vous l'a dit, à la page de l'Atelier du son. Et un peu sur Facebook en cherchant bien Thomas Baumgartner. Je vous laisse avec Aurélie Charron et je vous dis à la semaine prochaine.
Un truc?
Non.
De toute façon, je fais le mec un chouette décalqué de l'avion déjà.
Les ateliers de la nuit, c'est fini. La semaine prochaine, mardi, le documentaire Nassim ou le désir en mouvement. D'Alice Fargier, l'histoire d'une jeune danseuse iranienne qui a bravé les interdits pour pouvoir danser avant d'arriver en France il y a 5 ans. Mercredi, une affaire d'âme d'Ingmar Bergman, un long monologue de femme que Bergman imaginait comme un possible long métrage avec un seul plan rapproché. C'est la comédienne Luce Mouchel qui l'interprète dans l'atelier fiction. Jeudi, le documentaire Diane Arbus au ventre, d'Amaury Chardot et Nathalie Battus. Profitant de la première rétrospective de son œuvre en France au Jeu de Paume, ce portrait revisite une des icônes les plus secrètes de la photographie. Vendredi, dans l'atelier du son, Thomas Baumgartner reçoit le compositeur et musicien Olivier Mélano. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, on sera en direct de 23h jusqu'à minuit et on parlera de l'archéologie du toucher avec entre autres la chorégraphe Julie Nioche.